RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, vous êtes avec les Grandes Gueules en direct sur RMC et RMC Story. Nous vous saluons et vous attendons au 32-16. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous.
La radio et la télé c'est le canal 23 de la TNT. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour discuter, pour débattre. L'avocate Sandrine Pégan est avec nous aujourd'hui. Bonjour maître.
Bonjour à tous et chers auditeurs, chers téléspectateurs, tenez bon, les vacances sont bientôt là.
Nous sommes avec, dis pas ça, à côté de Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire. Bonjour mon cher Didier.
Bon, c'est les vacances toute l'année.
Je suis comme les autres, j'ai jamais été aussi près des vacances.
Tu vas prendre quelques jours là.
Bonjour à tous. Oui, fin août.
Tu vas où?
Je me sauve, bien loin.
Loin?
Quasiment pour la première fois de ma vie, je vais prendre l'avion pour aller en vacances.
Oh.
Mais on peut connaître ta destination?
Oui, donne-nous un indice.
En Bulgarie.
Dijon.
En Bulgarie.
Oui.
Oui,
et la capitale de la Bulgarie?
Sofia.
Voilà.
Et pourquoi le nom tourisme? Parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce pays où il y avait un brassage de culture entre la partie tournée vers l'Antiquité, la Grèce, l'Empire Ottoman et le côté slave. Et je trouvais qu'il y avait là-dedans un brassage intéressant à visiter.
Et t'as des églises orthodoxes peintes en bois magnifiques.
Vous intellectualisez un peu trop les vacances.
C'est très très beau la Bulgarie.
Non, mais moi, ce que j'aime bien dans les vacances, c'est qu'il n'y ait pas trop de monde. Donc tu vois, t'as peu de chance de me voir en Corse au mois d'août, quoi, ma belle.
Méfie-toi, Sofia. C'est possible que très touristique. Hein.
C'est possible que je déboule en Corse au mois de février, mais...
nous sommes avec le pop Antoine Diers, il attire notre attention sur les églises orthodoxes. Bonjour mon cher Antoine Diers, consultant juridique, l'homme de Dunkerque.
Bonjour à tous.
Le seul endroit où il a fait frais en France, à peu près, ou pas?
Non, mais il a fait chaud pour nous. Mais oui, effectivement, les gens nous
envient. Il y avait 16.
Non,
il y avait 16 le matin.
Les 30,
et ça montait à 18.
Jusqu'à 32. 32.
Ah, quand même.
32 à Dunkerque, c'est pas mal.
Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG et dans les Grandes Gueules? On va parler des limitations de vitesse parce qu'on a un palmarès des routes où la vitesse change le plus, enfin les limitations de vitesse, pas moins de 120 changements sur un tronçon Avignon-Lyon. Donc ça, on en parlera avec vous. On aura un face au GG avec le député Rassemblement National de Lyon, Julien Odoul. Mais d'abord, on va revenir sur des propos tenus et assumés par l'animatrice Karine Lemarchand. Karine Lemarchand, c'est l'animatrice, vous savez, c'est une des animatrices préférées des Français avec le programme L'amour est dans le pré. Pour moi, tu enlèves la vie, on t'enlève la vie. Voilà ce qu'elle dit à propos des derniers faits divers dramatiques, des meurtres, des morts d'enfants.
Oui, quand elle monte dans sa voiture, Karine Lemarchand, eh bien, on n'est jamais déçu parce qu'elle pousse toujours un coup de gueule et elle a beaucoup d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Donc forcément, le coup de gueule prend de l'ampleur. Alors cette fois-ci, elle s'est emparée de ses réseaux sociaux pour pousser un coup de gueule concernant la mort de la petite Liana. Voilà ce qu'elle dit. On voit bien qu'on a un problème de violence avec nos jeunes et qu'on a un problème avec la justice. Et moi, si je ne prends pas la parole sur la petite Liana et sur le petit Louis, c'est parce que je suis radical. Tu enlèves la vie, on t'enlève la vie. Je n'ai pas de problème à dire que pour certaines personnes, ils sont irrécupérables psychiquement. Ce sont des malades mentaux. Même si on les chope, je n'ai pas à payer toute ma vie pour qu'ils soient en tôle. Et j'en ai rien à foutre de leurs conditions de vie. L'occasion d'ailleurs pour la présentatrice dans la foulée de faire des propositions. Elle veut des référendums sur des décisions très précises concernant notamment la justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit, Karine Lemarchand?
Alors c'est un coup de gueule qui intervient quelques semaines après un sondage qui démontrait que 68% des Français souhaitaient un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Pour les criminels d'enfants. Tu enlèves la vie, on t'enlève la vie, rien à foutre de tes conditions de vie en prison. Est-ce qu'elle a raison? Vous venez en discuter avec nous au 32-16, Antoine Diers.
Je ne vais surprendre personne en disant que je trouve que Karine Lemarchand a une posture courageuse et intéressante. Ça me paraît être le bon sens le plus classique de se dire que quelqu'un qui a tué et elle le précise, qui continue à constituer un danger pour la société, eh bien, doit subir la peine de mort. Parce qu'il faut évacuer le danger de la société, il faut réparer ce qu'il a pu faire. Alors, j'entends déjà ceux qui vont me dire, Antoine, c'est horrible, tu n'imagines pas, notre société a tellement progressé, nous avons enlevé la peine de mort, c'est un progrès de dingue. Moi je vois pas de progrès, notre société elle va pas mieux depuis qu'on a enlevé la peine de mort, et je pense précisément que c'est l'affaiblissement de la justice, la réduction complète, la réduction des peines régulières qui fait qu'aujourd'hui plus personne n'a peur de rien, et donc on assiste à des choses horribles comme les meurtres et viols d'enfants. Et tu dirais de manière un peu claire, tu violes, tu tues un enfant, et bim, c'est cash, c'est direct. Je pense qu'on en aurait moins. Et c'est le seul objectif de la justice, protéger les gens.
Quand il y avait la peine de mort en France, jusqu'en 1982, il y avait des criminels qui tuaient des enfants. Il y a eu des affaires célèbres.
Donc c'était pas dissuasif. Tu peux pas dire parce qu'il y en a, c'est pas dissuasif. Pardon. Est-ce qu'il y en avait plus ou moins qu'aujourd'hui?
Alors, c'est pas chiffre.
Je demande juste à vérifier.
Oui, mais
je pense que il y en avait moins. Je pense qu'il y en avait moins. La société a globalement vu tous ses indicateurs sécuritaires se dégrader sur les dernières années. Donc ton argument, Olivier,
je pense que la pédocriminalité, malheureusement, elle existe depuis la nuit des temps.
Aujourd'hui,
on a mis un nom dessus, mais avant.
Donc t'as entendu ce que j'ai dit. La peine de mort pour protéger la société. Donc un type.
Oui, mais si ça protège la société. Si tu dis protéger la société, ça veut dire en ôtant la vie de celui qui a commis le crime et en faisant en sorte que ce soit dissuasif. Donc pour toi, ce sera dissuasif.
Alors mais Karine Le Marchand, elle a un autre argument. Elle dit, j'ai pas envie de payer toute ma vie pour
ça. C'est une chose. Voilà,
parce que elle dit en gros, ces gens-là ne ressortent jamais.
Elle dit ceux qui sont irrécupérables.
Alors déjà dans la démarche de Karine Le Marchand, moi je suis à peu près d'accord avec elle, parce que du coup sur le fait que
attends, Sandrine.
Elle dit, je m'exprime pas parce que je suis radical. Les radicaux, il y a bien des endroits où les radicaux ils s'expriment d'un autre bord. Donc elle a le droit de s'exprimer aussi. Puis après, ce que je trouve bizarre dans la démarche, elle dit, je ne m'exprime pas, mais elle te fait un long tweet quand même pour t'expliquer sa position. Ça me paraît bizarre. Après, sur le fond, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'alternatif à la peine de mort qui pourrait être une perpétuité réelle. Enfin, aujourd'hui, on sait très bien que quand quelqu'un prend perpétuité incompressible, machin, tout le Bataclan, allez. 21, 22 ans après, il est sorti quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc, je trouve
que la prison à vie pour toi n'existe pas, c'est le problème.
Ah mais non, la prison à vie n'existe pas. Les gens qui rentrent en prison à 18, 20 ans avec des peines incompressibles, le maximum c'est 30 ans.
Mais non,
la peine incompressible, si elle.
Eh ben oui, mais c'est ça qu'on appelle.
Ils ne ressortent pas, Didier. Ils ne ressortent pas.
Si ils ressortent après.
Non, ils ne ressortent pas. Excusez-moi, quand c'est, je vais encore refaire un petit cours de droit, mais parce que vous avez besoin, parce que visiblement vous ne retenez pas les choses, une ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre.
Bim, allez.
Non, mais
c'est
pas
que non. Quand tu as une perpétuité incompressible, elle est incompressible. Donc, ce qui veut dire que de toute façon,
non, mais il n'y a jamais la perpétuité incompressible.
Mais bien sûr que si, il y a déjà eu 5 cas en France.
Non, mais pardon.
Mais donc, ce qui veut dire qu'au-delà de 30 ans, tu as la possibilité, quand tu as pris malheureusement une peine avec une perpétuité incompressible, eh bien, tu as la possibilité de demander au tribunal d'aménagement de peine, au bout de 30 ans seulement, et pas avant, d'accord, de demander un aménagement de peine. C'est juste une possibilité.
Et au bout de 30 ans, t'es malade, t'es vieux, et on t'accorde la.
C'est une possibilité, c'est simplement pour l'histoire de donner un peu d'espoir. Mais ce n'est jamais accordé. Mais ce n'est jamais accordé.
En attendant.
Oui, il y a 5 ans.
Oui, il y a très bien.
Il y a 5 ans en France.
Oui,
mais on est d'accord.
Après, c'était des cas qui étaient.
Notamment, ça veut dire que un gars comme Barella, il va prendre 22 ans.
Pourquoi 22 ans?
Non, il peut prendre la perpétuité.
C'est des réclusions qui ont la perpétuité. C'est assassinat.
Regarde, prenons un exemple concret dans l'actualité. La meurtrière de la petite
Lola. Oui.
Elle a pris la perpétuité.
Incompressible.
Je crois que c'est la première fois qu'une femme.
Oui, c'est exactement la première fois.
La perpète. Ouais.
Elle est dans ce cas-là.
Ouais.
Mais non, je trouvais que c'était une peine.
Le débat, parce que
le
retour de la peine de mort pour les meurtriers d'enfants. Qu'est-ce que t'en penses?
J'ai juste mes oreilles qui saignent quand je vous écoute tous les deux. Hein, ça me fait mal au cœur que vous pensiez ça, parce que sincèrement, on s'est quand même battu pour justement qu'il y ait la peine de mort qui est abolie bien sûr en 1981 et pas en 1982, pardon Olivier.
Oui, c'était effectif en 82.
Mais la loi elle date de
82.
Non mais on est là aussi pour donner les choses correctement.
C'est pour ça que c'était effectif depuis 82.
Je t'apprends des choses. Non, je plaisante. Mais je ne veux absolument pas qu'on rentre dans le débat émotion contre émotion. Je peux comprendre l'émotion de tout à chacun quand on viole des enfants, on assassine des enfants, on a tous envie de hurler, de crier. Sauf que le rôle de la justice, pardon, mais ce n'est pas de transformer notre colère en politique pénale. Sinon, c'est la loi du talion qui s'applique. Et bien sûr que on peut tous comprendre.
Et la loi du talion, dans quoi ce sera un problème ?
Et alors, je vais juste te donner un exemple. L'abolition de la peine de mort, c'est une très bonne chose en France, en sens où déjà, à partir du moment où tu voudrais la rétablir, ça serait compliqué.
T'as parlé émotion, etc. Mais... Personne n'était dans l'émotion sur le plateau.
Non, mais
tout le monde disait pour protéger les gens.
Oui, mais je parle de Karine Le Marchand aussi, qui est là dans l'émotion, et tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train de dire mon Dieu, on a tué, assassiné, on a violé aussi des enfants, et on parle de Liana et on parle du petit Louis. Mais je vais juste te donner un exemple, et sincèrement, tu vas comprendre. La peine de mort, elle existe encore aux États-Unis. Est-ce que le taux de la criminalité a baissé, ouais. Dis-moi. Non, absolument pas. Et pourtant, elle existe encore. Donc, elle n'a pas été abolie.
Regarde les chiffres. Dans un état où il y a la peine de mort et dans un état où il n'y a pas la peine de mort, c'est pas les mêmes taux de criminalité.
Mais elle existe encore. Elle existe encore et elle est très élevée.
Ça n'existe pas, le taux zéro. Où les gens vivent tranquillement.
Pardon ?
Les États où la peine de mort existe encore sont hyper répressifs et les gens vivent plutôt tranquillement.
Mais ça va pas.
Et c'est les États.
Aux États-Unis.
Mais attendez, parlez pas des États-Unis. Il faut parler des États. Je suis persuadé que les taux de délinquance sont bien supérieurs dans les États où la peine de mort
n'est pas appliquée. Ça, c'est dans votre fantasme. C'est dans votre fantasme. Mais la réalité fait que tu regarderas le taux de criminalité aux États-Unis, quand bien même la peine de mort, elle est encore instaurée, qu'elle n'est pas abolie. Fais des statistiques, là on parle un petit peu là dans le vent. Mais
ce qui est sûr, c'est que nous on est rendu en France à un niveau d'impunité où les pédophiles sont quasiment à visage découvert, s'organisent en réseau, même plus sur le darknet, sur des applis normales, on va dire. Et je trouve que ouais, si vous voulez. Non, mais allez-y, faites-en des
DARQUE.
Non, mais si vous voulez pas d'arguments.
Mais non, mais mets-toi à la page aussi.
Mais c'est pas la question, parce qu'à un moment donné, on est à un niveau d'impunité aujourd'hui.
Mais pas d'impunité, mais n'exagère pas. Mais c'est un problème, le message, il est pas bon. On pouvait pas dire qu'on est dans l'impunité.
Il y a 50 ans, les pédophiles,
il n'y a pas de justice. Viens avec moi tous les jours.
Sur Barella, la justice, elle a pas été répressive sur Barella, pardon.
Ah oui, mais ça, c'est un dysfonctionnement et une responsabilité.
Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si on va rétablir ou non la peine de mort, parce qu'on pourra pas le faire.
Non.
Ce qui est dans la constitution.
Mais c'est créer un peu de doute chez ceux qui commettent des actes.
C'est quasiment impossible de rétablir la peine de mort. Moi, je pense que c'est pas le débat.
Au niveau européen, etc.
Le débat n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Karine Le Marchand, comme beaucoup de Français, pense ça? Parce que la justice semble complètement dépassée par les événements. Et l'affaire de la petite Liana a interpellé tout le monde, disant mais finalement on n'est pas protégé, nos enfants sont pas protégés. Il y a une mère de famille qui va porter plainte parce que sa fille a été violée. Le gendarme lui dit écoutez, on verra. Il se passe rien.
Et l'étape d'après, c'est les gens vont se faire justice eux-mêmes. L'étape d'après.
Mais c'est ça le problème.
Non, mais si vous comprenez pas dans la justice, si vous comprenez pas que l'étape d'après, c'est les gens vont.
Mais ça ne résout aucun problème. C'est pas parce qu'il va
réussir. Je voudrais radical contre la récidive, la peine de mort. Il y a pas de problème.
Non. Alors je voudrais donner.
Ah merci Alain.
Une donnée.
Non, mais je veux pas aller jusque-là.
Le Texas est le pays qui applique le plus la peine de mort. D'accord? Puisqu'on parlait de l'exemple américain. L'État du Texas. Mm-hmm. L'État du Texas est au-dessus de la moyenne américaine concernant les crimes violents et les crimes contre les biens. Voilà. C'est le pays qui applique le plus
la peine de mort. Tu vois, on apporte la preuve contraire.
Au-dessus de la moyenne américaine.
Donc ça ne résout pas le problème.
Laisse-moi parler.
Je suis persuadé.
Je peux pas finir une phrase.
Cet exemple n'est pas probant puisque je suis persuadé qu'il y a des États où il n'y a pas la peine de mort.
Monter la moyenne.
Et de la même manière, le Texas n'a pas la même population, n'a pas la même sociologie que l'État de New York ou que la Californie.
Donc,
n'allez pas dire que supprimer la peine de mort, ça va aller mieux.
Rétablir la peine de mort, ça ira mieux.
Tu m'as dit, je suis sûr que dans les États où on applique la peine de mort.
La peine de mort.
Voilà, tu disais toi-même. Je suis sûr que
tu compares au reste de la moyenne américaine.
Non, que l'État américain où on applique le plus la peine de mort
est supérieur à la moyenne.
A un taux de criminalité qui est supérieur à la moyenne américaine.
Mais je vais trouver un État où on n'applique pas la peine de mort qui a un taux de criminalité.
Oui, sauf que là, on est sur un État.
Je répondais à ton exemple. Tu me disais un exemple. Je suis sûr que dans un État où on applique la peine de mort, ça baisse. Là, dans un État où on applique la peine de mort, ça monte.
Au-delà de l'efficacité de la peine de mort, moi je pense.
Tu viens de dire qu'il est plus haut, mais tu dis pas que ça monte.
Oui, mais non, ça veut dire que
il est au-dessus. Il est au-dessus.
Il est plus haut, mais il ne montre pas.
Ce que ça veut dire, Sandrine.
Il ne soit pas de mauvaise foi non plus.
Mais non, il n'est pas de mauvaise foi.
Il peut être mauvais. C'est moi qui l'ai lancé, il peut être mauvais.
Sandrine, à mon avis,
c'était pas ça le débat.
À mon avis, le débat, c'est pas celui-là. Le débat, c'est de savoir comment empêcher que les gens, à un moment donné, aient envie de faire justice eux-mêmes.
C'est ça l'enjeu.
Comment empêcher la vengeance? Parce que effectivement, la justice, ce n'est pas la vengeance. Et je pense que ce qui s'est passé avec l'affaire Liana interpelle tout le monde là-dessus. C'est-à-dire que tout le monde se dit bon, finalement,
si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais?
Les institutions me protègent pas, protègent pas mes enfants. Est-ce que c'est à moi de le faire? Et donc, c'est quand même très grave. Ça veut dire qu'il va falloir que la justice ne réponde. Et quand on voit que les magistrats, la seule réponse qu'ils ont, c'est de faire des tribunes anti-Darmanin, bah, je suis désolé, c'est assez désolant.
Alors, la discussion vient d'être lancée de manière assez passionnée par les GG, par les grandes gueules. Karine Le Marchand dit tu ôtes la vie, on t'enlève la vie. Elle est assez radicale concernant la peine de mort. Bah, vous venez en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Dans un instant, on sera du côté du Rhône avec Bernard. Il est chariste et on vous attend donc au 32-16. Il est 9h15.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
C'est la discussion que l'on a avec les grandes gueules, avec maître Sandrine Pégan, avec l'agriculteur Didier Giraud et le consultant juridique Antoine Dierz. Discussion qu'on a sur ce qu'a dit Karine Le Marchand à propos des meurtres d'enfants, des terribles faits divers dramatiques que l'on a vécu là ces dernières semaines, où elle dit bah écoutez, moi je suis en colère. Quand tu enlèves la vie, on t'enlève la vie. Je ne veux pas payer toute ma vie pour des gens qui sont en tôle, rien à foutre de leurs conditions de vie. Alors ça relance ce débat sur la peine de mort, sur la perpétuité réelle, sur peut-être les failles de la justice aussi. C'est Bernard et Gérard qui sont avec nous. Bonjour Bernard, dans le Rhône. Bienvenue. Est-ce que vous êtes d'accord avec Karine Le Marchand ou pas?
Non, je suis pas d'accord. Déjà, je vais rectifier, Olivier, la loi, c'est le 9 octobre 1981.
Oui, tu as raison, j'ai vérifié. Je pensais que ça avait été en 82, mais ça a été voté dès 81, et effectivement, en octobre 81, la loi a été votée et appliquée.
Allez-y.
Voilà. En fait, moi, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la peine de mort, elle a un effet dissuasif? La réponse est non, malheureusement. Parce qu'en fait, ça a été dit avant, dans les États où la peine de mort existe encore, elle est encore appliquée, ça veut bien dire qu'il y a encore des crimes. Alors je dis pas que c'est que des assassinats d'enfants, mais c'est ça la question en fait, est-ce qu'elle a ce pouvoir de dissuasion? Non.
Oui, mais vous avez vu... Oui, mais Bernard, il y a un autre argument que Karine Le Marchand développe. Elle dit, moi, comme ils sont irrécupérables, et elle parle des criminels d'enfants, ce sont des malades mentaux, elle dit, moi, j'ai pas envie de payer toute ma vie pour qu'ils soient en tôle.
C'est ça, pour récupérer un bout de ces impôts, il faut les faire travailler.
Allez-y, Bernard.
Mais ils travaillent, hein, en prison.
Alors, j'entends cet argument. Je vais juste finir sur la première partie de développement. Dans les années 60-70, c'était la grande mode, entre guillemets, des enlèvements et des meurtres d'enfants. La peine de mort était encore applicable.
Patrick Henry, notamment.
Par exemple, l'affaire Ranucci, l'enlèvement de Biomérieux à Lyon, des enfants. Il y a une palanquée d'affaires comme ça. Ensuite, je mets du côté des meurtres face à son enfant. Les attentats contre les présidents de la République, De Gaulle, Sally Carnot, il y avait la peine de mort. Les deux ont été exécutés. Donc moi, je pense que pour moi, la réflexion, c'est est-ce que ça fait une dissuasion ? Non. Il y a sûrement une autre solution.
Mais en fait, pardon, mais Bernard, je me permets de
qu'on a été
de répondre.
Le dernier État d'Europe de l'Ouest à abolir la peine de mort, ce qui fait qu'on était très très en retard pour un pays qui se veut progressiste, c'est une parenthèse. Je pense que de la rétablir, je vois pas ce que ça changerait, à part...
Non, mais du coup, Bernard, moi, je rentre dans votre argumentaire, vous m'avez convaincu, Bernard. Vous m'avez convaincu.
Ah, moi, je t'avais
après,
pas convaincu, moi.
Non, mais je peux me laisser convaincre sur le fait que la peine de mort ne sert à rien. Mmh. Après, moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui peut être dissuasif, du coup? Dites-moi. C'est quoi qui est dissuasif?
C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas la question de savoir s'il faut remettre.
Ah, mais moi, j'ai pas la réponse, hein.
Après, c'est tout le système préventif.
Le débat, c'est ça.
Bah, déjà, peut-être appliquer les peines qui sont prévues.
Le seul argument que je peux entendre, enfin, les seuls, c'est la récidive. Ça, je peux l'entendre.
Merci.
Et effectivement, combien ça coûte de garder quelqu'un en France 20, 30, 40 ans? Ça, je peux l'entendre.
Vous savez aussi, parce que les gens, ils vont trouver une solution. Hein.
Oui, mais
les proches des victimes, ils vont trouver une solution si on ne trouve pas une dissuasion.
Didier, est-ce que la solution en 2026, par exemple, d'afficher les pédophiles comme le font certains sur les réseaux sociaux, c'est pas plus dissuasif que la peine de mort? Je grossis le trait pour en faisant un petit peu exprès. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est de se faire afficher comme le font certains d'ailleurs, je sais plus, vous en avez montré dans vos émissions là il y a 2-3 semaines, d'un mec qui piège des pédophiles. Est-ce que ça finalement c'est pas plus efficace déjà pour les arrêter premièrement?
Moi j'ai une solution, c'est la castration. Et c'est pas la castration chimique, c'est la castration mécanique effective.
Mais là on parle de la pénalisation.
La castration chimique, elle est sur la base aussi du volontariat de la personne.
Bernard, vous avez raison, parce que tuer un violeur d'enfant, ça ne rend pas justice.
Et surtout,
ça ne rend pas justice à l'enfant.
Et la castration chimique n'empêche pas l'agression sexuelle.
Antoine,
mais fait différemment.
Si on suit le raisonnement que vous développez là avec Bernard, en considérant que la peine suprême n'a pas d'effet dissuasif, on peut poursuivre en disant, mais il risque la prison à perpétuité et ils commettent quand même des crimes. Autant supprimer la prison à perpétuité. Mais on met des amendes quand on roule trop vite, mais il y en a encore qui roulent trop vite. Autant supprimer les amendes, c'est pas
et regarde justement, donc,
raisonnement. Je trouve qu'il y a une construction idéologique et intellectuelle autour de la peine de mort qui dit, regardez, on l'a supprimé, ça n'a pas explosé. Ou regardez, il y a la peine de mort, il n'y a pas moins de crimes. Alors qu'en réalité, c'est un sujet de hiérarchie des peines.
Il y a aussi un autre argument.
Je termine là-dessus. De capacité à dire, oui, la justice, pour défendre sa population, pour protéger sa population, peut aller jusque-là.
Donc,
oui, mais il y a un autre argument.
Donc, un droit de tuer.
En supprimant la peine de mort.
Donc, tu veux donner au gouvernement la possibilité de donner un permis de tuer.
Pardon, la justice, voilà, c'est pas le gouvernement. Pardon, mais si l'avocat me dit que la justice, c'est le gouvernement, on est perdu.
Mais ça sera forcément voté. Donc ça sera appliqué par le gouvernement.
Ça sera voté par le peuple. Il y a quand même un argument moral. C'est-à-dire que on tue la personne parce qu'elle a tué. Mais on tue froidement.
On tue pour protéger.
On tue parce qu'elle a tué et on tue froidement, puisqu'on le décide après, effectivement, un procès, après avoir délibéré. Donc c'est en fait une sorte d'assassinat.
Je vais pas faire de parallèle avec la loi sur l'euthanasie, mais c'est tout aussi froid.
On peut en débattre avec l'euthanasie, mais sauf que l'euthanasie, la personne est consentante. Là, c'est pas le cas. Moi, je trouve que c'est un drôle de message que tu envoies, c'est-à-dire que c'est quand même un peu œil pour œil, dent pour dent. C'est tu as tué, je te tue.
La loi du talion.
Je te tue froidement. Je suis pas sûr qu'en se comportant comme l'assassin, on sorte grandi.
Alors Bernard, je voudrais qu'on écoute Gérard qui est avec nous aussi, qui nous appelle de Paris. Bonjour Gérard.
Bonjour les grandes gueules.
Bon, vous avez entendu, Bernard dit ce n'est pas dissuasif. Vous, quelle est votre opinion alors? Est-ce qu'on doit avoir
un débat? Moi, ce que vous venez de dire, en fait, moi, je pense que ce n'est pas dissuasif, effectivement, de la peine de mort. Par contre, c'est obligatoire. Vous enlevez la vie à quelqu'un, encore pire quand c'est des crimes horribles comme sur des enfants, sur des nourrissons, ou sur des femmes qui sont violées, tuées, brûlées. Après, quand ça vous arrive, je pense que vous n'avez pas la même réflexion qu'aujourd'hui, quand on discute en se disant, bah oui, mais c'est arrivé à notre voisin ou à quelqu'un qu'on connaît pas. Moi, aujourd'hui, je sais que forcément, ça va pas, ça fera pas baisser, ça sera pas dissuasif pour les gens parce qu'en fait, c'est souvent, ils le font de leur propre chef et avec l'intention de tuer. Maintenant, le but, c'est vous enlever la vie, voilà, je suis d'accord. Il faut être tué. Aujourd'hui, la peine de mort, la peine à perpétuité en France, c'est 22 ans maximum avec.
Mais dans ce cas-là, on peut changer les choses et faire en sorte qu'il y ait une véritable perpétuité.
Tu continueras à payer les
impôts. Mais elle existe déjà, cette perpétuité réelle, c'est ça que vous ne comprenez pas. Je suis désolé, Gérard, mais si, dans la pratique, elle existe.
Elle est très peu appliquée.
Très peu appliquée, mais elle existe aussi. Donc après, c'est une question.
J'en connais des gens qui ont pris perpétuité, c'est 22 ans, avec une peine maximum de 22 ans.
Oui, il y a la perpétuité incompressible. Donc
incompressible en France, c'est 22 ans.
Voilà. Non, c'est 30
regardez,
ans.
Il y en a qui. Ouais, mais
non, mais voilà, malheureusement, dans le langage commun, c'est.
Là, aujourd'hui, c'est horrible. Enfin, demain, je ne sais pas si vous avez une fille, je ne vous le souhaite pas, mais fille, quelqu'un de votre famille qui se fait.
Oui, mais Gérard, la justice, ce n'est pas la vengeance. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de justice et on laisse la famille se venger.
Après, ça revient au principe où on dit c'est à la famille de se venger. Donc la famille.
Et Gérard.
Que c'est vous qui devenez criminel. Mais non.
Est-ce qu'on peut mettre quelque chose dans le débat? Est-ce qu'on peut penser aux erreurs judiciaires, Gérard? Oui. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a plus de 200 personnes qui étaient condamnées à mort, qui ont été innocentées depuis 1973. Non, mais quand il y a une exécution, on fait comment après s'il y a une erreur judiciaire? Eh ben, c'est trop tard.
Là, en ce moment, c'est avéré, c'est reconnu.
Là, oui, mais l'erreur judiciaire est toujours possible.
Mais il y a toujours une erreur possible.
Bah, elle est irréparable s'il y a peine de mort.
Plus de 200 personnes qui ont été innocentées.
Ça fait partie des dommages collatéraux.
Ah oui,
non mais.
Oui, voilà quand même.
C'est pas tenable.
C'est pas possible.
Quand vous enlève la vie, moi, je suis désolé.
Oui, d'accord, mais vous n'allez pas tuer un innocent parce que ça fait... vous dites, bon, tant pis.
Mais c'est combien le pourcentage d'innocents?
Dommage collatéral.
Ben, elle vous a donné un chiffre, Sandrine.
C'est combien le pourcentage?
Ben, Sandrine vous a donné un chiffre, il y avait 200 personnes condamnées à mort qui finalement...
qui ont été innocentées, et selon, c'est selon le Death Penalty Information Center.
Mais donc vous, c'est pas grave. Oui, mais une vie, c'est une vie. Cette vie, c'est la même chose. Bah oui.
Ça veut dire que demain, si ça vous arrive, ou si vous avez quelqu'un de votre famille qui est dans ce cas-là, ça vous dérange pas que cette
personne... Vous comprenez pas, Gérard, c'est que moi, si ça arrivait à mes enfants, j'aurais sans doute un sentiment de vengeance et j'aurais envie de faire subir le pire des châtiments à la personne qui s'en est prêt à mes enfants. Mais la justice est là justement, pour pas que ça soit le Far West.
La justice, elle est là pour qu'on puisse la modifier et que dans des cas précis, c'est bien ce que je vous ai dit, c'est dans des cas précis où il faut que la peine de mort soit activée. Maintenant, si les faits sont avérés, réels, il y a eu aveu, il y a tout eu. Il n'y a pas de retour en arrière.
Mais Gérard, il y a bien des dossiers où malheureusement les aveux ont été extorqués et qu'ensuite de quoi ils se sont ravisés et ils ont été innocentés. Donc
les technologies qu'on a sur la scientifique, on n'a plus de doute. On peut plus avoir de doute sur certains crimes, sur certaines choses. Il y a tout qui est en France. Enfin tout le domaine scientifique peut vous prouver par A plus B et sans défaillir que c'est bien la bonne personne qui a tué. Voilà, moi je dis juste que aujourd'hui, moi demain, il y a quelqu'un qui touche à un de mes enfants.
Mais on est d'accord, mais on pense la même chose. Mais Gérard,
si je lui donne 10 ans, 20 ans, parce que
mais elle donnera pas 10 ans. Non, mais je suis d'accord. Il faut que les peines.
C'était laquelle? C'était la petite qui s'est fait.
Regarde les.
Il faut que les peines soient peut-être plus fermes.
Quelque chose. Non, mais je finis quelque chose. La petite qui s'est fait tuer par je sais plus c'était qui la dame. J'ai plus le nom de la gamine. Elle a été jugée irresponsable au moment.
Lola, la petite Lola.
Ah non, elle a pas été jugée irresponsable. Elle était condamnée.
Oui, mais elle est responsable de mon elle était sous l'emprise de substances. Enfin, voilà.
Mais voyez, attendez.
Oui, mais elle a été reconnue coupable.
Gérard,
elle
on peut prendre un exemple.
Ah oui,
on peut prendre un exemple. Attendez, on peut prendre un exemple connu. La mort du petit Grégory. La mort du petit Grégory. Il y a eu un acte de vengeance. Celui de Grégory Vimin contre Bernard Laroche.
Il a
tué Bernard Laroche. Il a été condamné.
Condamnation de principe.
Oui, bien sûr. Mais. Derrière.
D'ailleurs, on a jamais trouvé le meurtrier. Et voilà. Peut-être c'était Bernard Laroche.
On ne sait pas.
Peut-être
c'était Bernard Laroche.
On ne sait pas du point de vue judiciaire.
Mais l'enquête
on
continue.
On ne sait pas. Or, il y a un enfant qui est mort. Il y a un autre homme qui est mort dans cette histoire.
Je suis d'accord avec toi.
Et on n'a toujours pas la vérité, si tu veux. Et là, il s'est fait.
Pourquoi il s'est fait justice lui-même? Et ça revient avec ce que dit Karine Le Marchand.
Parce qu'il y avait les errements d'enquête.
Mais parce que la justice était défaillante.
Oui.
Donc c'est pour ça, on revient au début de notre histoire. C'est que
si la justice agit,
si la justice fait son boulot, on n'aura pas envie de peine de mort et on aura pas envie de vengeance.
La justice,
il faut que la justice fasse son boulot. Voilà.
Parce que moi, j'aimerais que Sandrine me fasse une stat que j'ai pas. En moyenne, un violeur, combien il prend? Je parle pas d'enfant. En moyenne, un violeur, combien il prend?
Alors, tout dépend.
Tu prends moins que pour un braquage à main armée.
Tout dépend déjà le casier judiciaire, puisque bien évidemment, la peine, elle est individualisée. En moyenne, c'est entre 7 et 10 ans.
Voilà.
En moyenne.
Voilà.
Mais il en
fait après, ça, les gens, ils trouvent que c'est
pas juste.
Il en fait la moitié. C'est 15 ans.
Oui, mais
c'est 15 ans, la peine maximale.
Et la moitié, en
plus. Après, si c'est aggravé, c'est 20 ans.
3 ans et demi, il est dehors.
Après avoir écouté Gérard et Bernard, si vous permettez, je voudrais qu'on aille du côté de la Haute-Garonne avec Chloé, qui est gestionnaire RH. Bonjour, Chloé. Bienvenue dans cette discussion. Vous m'entendez, Chloé?
Oui, bonjour.
Quelle est votre opinion? Vous avez entendu Gérard, Bernard, deux opinions différentes. Quelle est la vôtre, alors, dites-moi?
Alors, moi, mon opinion, elle ne concerne que les violeurs et tueurs d'enfants. Je ne parle pas des tueurs en général. Et ce n'est pas une question de récidive ou de justice. Je trouve qu'il faut se débarrasser des indésirables. C'est peut-être violent, et croyez-moi, je ne suis absolument pas radicale, mais ces personnes, on l'a bien vu, ils récidivent à chaque fois. Donc, Karine a plutôt raison. Moi, j'ai
un problème avec la récidive des pédocriminels, ça c'est vrai.
Voilà, j'ai pas spécialement envie de payer le logement et la nourriture à quelqu'un qui va aller 22 ans, ou 2 ans parfois, en prison et qui va en plus recommencer. Je suis désolée, mais ils sont irrécupérables.
Donc vous ne voulez pas que la société prenne en charge ces gens-là, non. Et vous préférez qu'on les élimine, quoi. C'est
voilà,
ça.
En plus,
pour protéger la société.
Il y a des pays qui proposent la castration chimique. J'ai lu aussi des études là-dessus. Ça ne marche pas forcément parce que ce sont des pulsions et pas forcément sexuelles. Il n'y a rien à faire. C'est triste, hein, c'est désolant. Et croyez-moi, je suis extrêmement bienveillante. Mais pour ces personnes-là, il n'y a rien à faire. Et il le mérite.
Chloé, je suis désolée, mais vous savez ce qui est terriblement dur à entendre, c'est que vous parlez des indésirables. Je voudrais juste vous rappeler un petit pan de l'histoire. Les nazis voulaient se débarrasser des indésirables.
Mais
faites attention à ce que vous dites. Vous voyez, c'est Chloé, faut vraiment faire attention au message que vous voulez passer.
La contre-thèse n'a qu'un seul exemple.
T'es sûr de toi? Je suis pas sûr. Et surtout, je pense qu'on peut dire que dans la société, il y a des gens qui sont indésirables. Il y a des gens qui sont néfastes à la société.
Faites attention, mais en même temps, on est dans l'émotion et c'est toujours difficile de dialoguer et d'avoir une position froide.
Je vais donner un élément pour Chloé. C'est les taux de récidive que j'ai regardé, parce qu'il faut regarder les chiffres pour faire une bataille de chiffres. Il y a des taux de récidive de plus de 5% sur les viols et il y a des taux de récidive de plus de 7% en France sur les assassinats. Et donc, pardon, moi j'ai une pensée pour toutes ces victimes qui, si on avait appliqué la peine de mort à celui qui les a violées ou assassinées en état de récidive, et bien s'il y avait eu la peine de mort, ces gens-là seraient encore là. Donc, pardon, mais rien que ça, ça vaut le coup. Rien que ça,
non,
pour protéger les gens,
non,
ça vaut le coup.
Mais non. Parce que derrière, il y a deux choses dans
pardon, celui qui a subi la peine de mort, il récidive pas. Hein, c'est définitif.
Oui. Voilà. Donc, si tu veux, tu te dis celui qui a commis un crime, ouais, on l'élimine. Mais est-ce que ça garantit derrière qu'il n'y aura pas de
pourquoi tu limites ça aux criminels d'enfants, alors
ta théorie.
Mais oui, ça tient pas. Et c'est un triste retour en arrière, Antoine. C'est désolant. C'est désolant.
Moi, je suis pour le rétablissement de la peine de mort pour tout le monde.
Aux criminels d'enfants. D'accord. Et ensuite.
Au moins, il assume sa position.
Ensuite, soyons hyper clairs. La récidive, elle est très courante. Elle est très courante. Non, et donc les gens déjà condamnés, oui, d'accord, quand ils sont.
Mais la récidive où elle est le plus élevée, c'est en pédophilie. La récidive où elle est le plus élevée, c'est en pédophilie.
Ça montre bien qu'il y a des gens qui sont irrécupérables et qui deviennent donc indésirables pour la société, de manière très claire, très nette. Et si le rôle de la justice, c'est pas de protéger les gens, je sais pas quel est son rôle.
Alors, mais en tout cas, le rôle de la justice, c'est pas de donner la mort.
C'est vous qui aurez conclu
les enfermés, ça protège.
Le rôle de la justice, ce n'est pas de donner la mort, que les choses soient bien claires.
Tu enlèves la vie, on te la retire. Karine Lemarchand a-t-elle raison? On a posé la question sur les réseaux sociaux. C'était un oui à plus de 88%, même supérieur au sondage qui disait à 68% que les Français voulaient un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Allez, dans un instant, 10h20, dans un instant, on s'en fout pas. La taxe sur les petits colis en France déjà suspendue. Un candidat de plus ce matin à la présidentielle. Et puis la canicule, l'agriculture, on en discute avec les GG. C'est Louis Gerbier qui va nous présenter. L'on s'en fout, on s'en fout pas. Tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les Grandes Gueules, en direct sur RMC et RMC Story. C'est vous qui prenez la parole, bien sûr. Antoine Dierz, Didier Giraud, Sandrine Pégan, un agriculteur, un consultant juridique, une avocate. Voilà vos trois Grandes Gueules. Il est 10h moins le quart, c'est l'heure du On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas. Bonjour, monsieur Louis Gerbier.
Bonjour à tous, salut les GG. Eh ben, c'est déjà fini pour la taxe des petits colis. On s'en fout pas, Didier?
Oh, on s'en fout un peu.
Sandrine.
Alors, moi, déjà, je voudrais dire que je te trouve très élégant avec cette petite veste.
Merci.
J'ai quelque chose à te demander après.
Oui.
on s'en fout pas.
Et Antoine?
On s'en fout pas.
Eh bien, la taxe, vous savez, de 2 euros sur les petits colis qui a été instaurée en mars, en fait, elle était contournée par tout le monde. Oui. Et donc, elle servait plus trop à grand chose. Et surtout, en plus, aujourd'hui, c'est le jour d'introduction d'un droit de douane européen de 3 euros auquel elle devait initialement s'ajouter. Finalement, elle ne sera pas ajoutée à cela, mais quand même une nouvelle taxe. Didier.
Ils s'en foutent.
Parce que j'y ai jamais cru.
Mais c'est encore juste une fois la sûreté. Donc oui, Belgique, ça venait en, par la route. Il faut française. Il faut sensibiliser les Français. Et puis ben, finalement, on va tous acheter chinois. Donc oui, bon, absurdité. Antoine. J'ai jamais juste envie de dire ça.
Non, mais je suis un peu sur le même créneau que Sandrine. C'est le fait que des élus aient pu croire qu'ils pouvaient lutter contre la mondialisation par un petit texte. Tu vois, et les mecs étaient sérieux. Qu'avec une petite taxe, et ils ont juste oublié que la France est dans le monde. Tu vois, tout le temps, on nous rabâche les oreilles sur l'immigration, c'est dans le monde, les flux, etc. Et là, ils l'ont oublié. Donc, fascinant.
On enchaîne, Louis.
J'aime bien.
Allez, on enchaîne, attention, Philippe Brun en route vers l'Élysée. Oui, bon, c'est qui Philippe Brun?
Monsieur Brun.
Monsieur Brun, le député,
le lyonnais,
le député socialiste de l'heure. Sandrine, tu t'en fous ou pas?
Mais alors, je m'en fous royalement, pardonnez-moi.
Didier.
Ah bah, je m'en fous pas, j'ai des trucs à dire.
Ah bon? Antoine.
Ah, je m'en fous pas.
C'est le député socialiste de l'heure, il était chez Apolline ce matin, on l'écoute.
Je serai candidat à la primaire interne du Parti Socialiste. Il ne s'agit pas d'ajouter une candidature extérieure. Et je serai candidat pour porter cette ligne populaire, pour que la gauche ne soit plus à côté de ses pompes, pour qu'enfin on reparle aux gens qui nous écoutent ce matin sur RMC, qui sont au volant de leur voiture, et à la auxquels la gauche ne parle plus depuis trop longtemps maintenant.
Il veut principalement, enfin en tout cas, une de ses mesures serait de rapprocher le brut du net. Didier, pourquoi tu...
Ah, on n'y avait pas pensé, merci Monsieur Brun. Mais on s'en fout complètement de sa candidature, c'est ça que je veux dire. Mais on s'en fout de Monsieur Brun. Monsieur Brun, d'ailleurs, il ne sait même pas tricher aux cartes et il va faire 14 signatures pour l'investiture. Donc, on s'en fout.
Il est à l'intérieur de la primaire du Parti Socialiste.
Ouais, bah, si
on n'est même pas sûr qu'elle ait lieu.
On n'est pas sûr qu'elle ait lieu. Il y a tous ceux qui ne voudront pas passer par la primaire. Donc, il va y avoir plusieurs candidats à gauche, sans quoi je ne vois pas comment la gauche existerait. Et là, à l'intérieur, ces petits candidats qui font ça pour faire exister un débat différent, ils sont inaudibles.
Antoine, tu t'en fous pas ? Non, moi je m'en fous pas parce que Philippe Brun, à gauche, est un personnage politique plutôt intéressant finalement. Il est peu connu, mais il porte une espèce de gauche populaire, un peu anti-européenne,
issu d'un département de l'Eure, plutôt rural,
oui, ouais,
plutôt donc, à droite d'ailleurs.
En fait, c'est le bonhomme un peu enraciné dans le réel à gauche. Donc voilà, j'aime bien. Je pense que le débat sera intéressant.
Oui, mais...
Et puis surtout, tout ce qui peut diviser la gauche me plaît.
Mais pardon, mais Antoine. Tu te souviens ce qu'avait dit Andy Warhol,
ta motivation.
Chacun un jour a son quart d'heure.
Ah, très objectif tout
et
ça.
Et la primaire c'est devenu ça, c'est-à-dire que maintenant
oui,
avec
non,
la primaire,
il veut structurer un vrai.
Chacun un veut avoir son quart d'heure de célébrité. Moi j'aime bien Philippe Brun, il vient souvent dans les grandes gueules, mais on sait très bien qu'il ne sera jamais président de la République, en tout cas pas cette fois-ci, peut-être dans la prochaine ou la celle d'après.
On va être 7 ans.
Donc en fait ça lui permettra d'exister, d'être invité par les médias, d'avoir son petit quart d'heure de gloire, et ensuite peut-être de mieux négocier un ralliement
Olivier, à ces gars-là, on leur rappelle que la politique, c'est pas fait pour avoir son quart d'heure de gloire.
Ouais,
la politique, c'est fait pour servir ton pays et ton peuple, quoi.
Ah,
ça a quand même rien à voir. Je lui conseille à ce gars-là d'aller voir le superbe film de Baudry, là, qui retrace la vie du général de Gaulle de 40 à 45 et de voir les hommes qui ont composé la France. Tous ces candidats-là qui veulent leur quart d'heure de gloire, je leur conseille d'aller voir le film, quoi. Ça va leur rappeler à quoi ça sert un politique, quoi. Mm-hmm. J'en peux plus, moi. Des politiques qui existent par le buzz, par Twitter et par leur quart d'heure de gloire. C'est pas ça que ça sert un politique. Un politique, ça sert à servir son pays et son peuple, quoi. Ils ont tous oublié.
C'est fou la détestation du politique parce que, en fait, il fait ça. Peut-être pas pour avoir son quart d'heure de gloire, mais pour défendre ses idées. Pardon, vous oubliez juste que oui.
On n'a jamais entendu parler de lui avant, Antoine.
C'est le Parti Socialiste, c'est un combat permanent entre courants, entre idées, etc.
Oui.
Et là, il va essayer de faire prévaloir ses idées, surtout son courant. Bah, c'est logique, c'est ça la politique. C'est
déjà, comme le rappelait Olivier, il faut qu'ils arrivent déjà au Parti Socialiste à définir leur propre calendrier.
Déjà.
Ça doit être fait avant le 9 juillet, je crois, où ils doivent trouver les modalités internes de désignation
et d'organisation de la primaire,
ce qui risque d'être là aussi un peu
compliqué. Ça montre aussi qu'au Parti Socialiste, il n'y a pas de leadership. C'est le gros problème du Parti Socialiste. Et parce que, logiquement, ça devrait être le patron, c'est-à-dire Olivier Faure, qui devrait être le candidat naturel, comme en son temps François Mitterrand l'a été, ou Lionel Jospin et d'autres. Et là, donc, il n'y a pas de candidat naturel. Donc, effectivement, on a Jérôme Guège, Philippe Brun, il y en aura d'autres qui vont vouloir se présenter une primaire qui n'aura peut-être pas lieu, parce que au final, ils choisiront sans doute de se rallier à Raphaël Glucksmann, qui n'est pas au PS et qui est un candidat en
qui
dehors
lui du parti. Désistera en faveur de je ne sais pas qui.
Ah non, je ne pense pas qu'ils
essaieront. Ça serait bien qu'il y ait un parti qui rassemble plutôt qu'il divise. Non, ce serait bien qu'il y ait un parti qui rassemble plutôt qu'il divise, parce que là, visiblement, là, comment on fait là pour tous ceux qui sont de la gauche, ils font comment pour...
Après, on est qu'au mois de début juillet, fin juin, début juillet, la présidentielle, c'est en mai, donc il va se passer beaucoup de choses d'ici là.
Allez, on termine. Juste avant, j'ai une question. Pourquoi un président, ça doit savoir tricher aux cartes, Didier ? J'ai pas compris.
Parce que Monsieur Brun, la référence, c'est la trilogie marseillaise. Marius, Fanny, César,
de Marcel
Brun.
Pagnol.
Relis Marcel Pagnol.
Marcel Pagnol, et il y a un personnage dans la trilogie, dans le premier épisode dans Marius, qui s'appelle Monsieur Brun.
C'est un Lyonnais.
Il arrive de Lyon, il parle un peu comme ça.
Mais on était moi, pas je m'étais lui, arrivé au Bartavel.
1931.
Il faut lire Marcel Pagnol.
La trilogie Marcel.
Elle est sur Netflix. Si ça vous dit de revoir la trilogie de Pagnol, elle est sur Netflix.
Allez, on termine avec de l'agriculture, justement, face aux pertes dans les élevages de volailles. Un maire demande l'état de catastrophe naturelle. On s'en fout pas, Antoine.
On s'en fout pas.
Sandrine.
On ne s'en fout pas.
Et Didier.
On s'en fout pas, je peux même te l'expliquer.
Ah oui, c'est dans le Finistère, donc en raison des fortes chaleurs, beaucoup de pertes dans les élevages. Et c'est le maire de Rospordin, on salue les habitants de Rospordin dans le Finistère, qui engage une démarche officielle auprès de l'État pour solliciter la catastrophe naturelle. Didier.
Alors, je vais t'expliquer pourquoi cette... Alors, bien évidemment, la sécheresse, enfin la canicule, la chaleur augmente les taux de perte dans les élevages de volailles. Contrairement à ce que diront certains, la proportion est plus élevée chez les volailles qui sortent à l'extérieur que chez les volailles complètement industrielles qui sortent pas du bâtiment. Mais du coup, ça fait des volumes à traiter par l'écarissage qui sont tels. En fait, il y a un grand principe dans l'écarissage, c'est que...
C'est quoi l'écarissage ?
Les sociétés qui nettoient les cadavres, enfin qui recyclent les cadavres.
Les carcasses.
Les cadavres d'animaux. Voilà. Et on ne peut pas mettre plus d'un certain taux de plumes.
D'accord.
Dans ces traitements-là. Et il s'avère qu'aujourd'hui, alors, dans l'Ouest, là où est la production, ces fortes canicules font augmenter la mortalité des volailles. Donc, le taux de plumes augmente. Et on demande aujourd'hui à des éleveurs de faire des charniers sur leur exploitation. D'enterrer des volailles sur leur exploitation parce que l'écarissage n'a plus la capacité à traiter le volume parce qu'en fait il y a un taux de plumes que tu peux pas augmenter par rapport aux bovins, aux porcins et aux moutons. Et du coup comme cette demande des élus locaux, elle a aussi pour but de faire en sorte que les usines d'écarissage ne s'arrêtent pas le week-end, parce que ce qui s'est passé ce week-end, c'est que comme toutes les semaines de l'année, les usines d'écarissage dans l'Ouest se sont arrêtées vendredi soir. Et du coup, la mortalité a continué et ça faisait lundi matin un taux de volaille qui était trop important. Donc les élus municipaux et locaux saisissent le gouvernement en disant prenez un arrêté ou prenez des décisions pour pas que les usines d'écarissage s'arrêtent, ce qui nous permettra d'absorber le flux. Mais voilà, la chaleur fait qu'il y a de la mortalité, c'est indéniable.
J'ai rien compris, mais je te remercie Didier. C'était
désolé.
Merci d'avoir
essayé de faire ça clair.
Tenté le coup.
Retente une deuxième fois alors.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on va entamer la deuxième heure. On va s'intéresser à cette pétition qui est lancée de la part de locataires et d'associations qui disent, écoutez, on a eu la canicule, on n'avait pas de volet, donc s'il n'y a pas de volet, il n'y a pas de loyer. Ce sont des locataires qui disent, on ne payera pas, on était dans des bouilloires thermiques, pas de volet, pas de loyer. Est-ce qu'ils ont raison de ce coup de gueule ? Et puis dans un instant... nous recevrons Julien Oudoul, il est député Rassemblement National de Lyon, il est porte-parole du Rassemblement National. On reparlera avec lui justement de la colère des Français, du débat sur la peine de mort.
Attends. Et on va surtout leur dire que le RN...
Climatisation.
Là, c'est la girouette RN.
Ah bah oui,
c'était les climato-sceptiques.
Complètement.
Les forcenés, alors désormais, ça y est, ils ont plein de solutions pour que la planète se réchauffe moins. C'est formidable.
Ils ont un plan climat à 20 milliards.
On
allez,
va très
à tout de suite avec les grandes gueules et bien sûr attend. Avec vous au 32-16.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.